à se préserver de l'image et de la représentation. À partir de là, ce qu'il y a de meilleur dans les nations est reçu, et peut-être peut-on comprendre le verset de Vayakhel dans sa forme extrapolative, c'est-à-dire celle des commentaires de tout à l'heure, après la mort de Moïse, Israël est médiateur, est intermédiaire entre Dieu et les nations, afin de rassembler ce qu'il y a de meilleur dans les nations. Et c'est cela qui serait, selon ses maîtres, ce qu'il y a de meilleur dans les nations. Et ce serait, en quelque sorte, l'argument fondamental, celui auquel il faut se référer. Et je voudrais simplement dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je dirais de manière simpliste, l'interdit de la présentation à nouveau, du substitut de la relation perdue, de la représentation, donc de l'image, n'a pas cours que dans la peinture. Encore qu'il c'est un non-sens de dire qu'il est interdit de peindre à cause de cela, tout est dans le projet. Il est bien entendu, et dans le rapport au projet, de celui qui voit au projet, mais il est bien entendu que cet interdit de la représentation peut très bien se retrouver dans la poésie, dans l'écriture, dans la manière d'être et d'agir, et dans la musique. Il peut très bien y avoir une poétique, je dirais, un poème qui fait œuvre de substitut d'une relation perdue. Je pense à des poèmes qui sont merveilleux. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a eu une mort quelque part, ou quelqu'un de perdu, vous voyez le romantisme allemand, et pas seulement le romantisme, pensez à Mallarmé, le poème de l'enfant, parce que précisément, il y a eu quelque chose de perdu, et qu'il y a une telle volonté de recréer la relation imaginaire à ce qui a été perdu, que l'on fait une œuvre exaltante, merveilleuse, mais qui, quelque part, s'appuie sur cette pulsion de mort qui entraîne au niveau sémantique, au niveau du verset, l'expression « Bacharta, non pas Bamavet, mais Bachaim, le man tichye. Tu choisiras non pas dans la mort, mais dans, j'ai ajouté, mais dans la vie, afin que tu vives. » Voilà ce que nous entendons par vie, par choix dans la vie, par « j'ai placé la bénédiction et la malédiction et la vie et la mort devant toi, à toi de choisir, et ce serait ce choix qui cautionnerait en quelque sorte la qualité de la pensée des nations et donc permettrait de juger, en tant que possible peut se faire, de ce qu'il y a de meilleur dans les nations. Ceci étant dit, je voudrais introduire un deuxième point. C'est, et là, je voudrais partir d'un exemple biblique pour éviter de théoriser immédiatement et faire de la pseudo-philosophie. C'est le deuxième point qui est considéré comme important par l'école de Lublin à partir du voyant de Lublin, en passant donc par le rabbi de Kotsk, Sisra Hibitzia dans l'école chassidique, et sa cassure avec rabbi Tzadok HaKohen et déjà rabbi Mordechai Yosef Leiner, le meilleur chinois. Il faut savoir une chose, c'est le rapport à l'histoire. Le concept d'histoire, j'allais presque dire la philosophie de l'histoire. Oui, je sais, aujourd'hui, lorsqu'on parle de philosophie de l'histoire, certains gens pensent à Hegel. Ce n'est pas faux, mais aujourd'hui, il semblerait que peu de gens croient encore en une philosophie de l'histoire, en une histoire qui aurait une finalité. C'est très mal vu, parce que ça fait tellement référence au marxisme et à d'autres modes de pensée qui sont en perte de vitesse que l'on se dit ça n'existe plus. Jusqu'au jour où on les rencontre sous des formes extrêmement détournées et pas nécessairement immédiatement hegelienne. Je voudrais m'en expliquer, mais d'abord donner un exemple. Vous savez que, en fait, il y a dans le livre de Shemot, dans la paracha de Beshalach, ce que je suis en train d'expliquer maintenant, dans les prochaines minutes, c'est le rapport que les Juifs entretiennent avec l'histoire. Ces penseurs chassidiques et kabbalistes entretiennent avec l'histoire, et dans quelle mesure une pensée philosophique, une manière d'appréhender l'histoire dans d'autres cultures, peut être perçue comme s'inscrivant dans l'ordre des meilleures valeurs ou non. J'essaye simplement de cerner le sujet, c'est-à-dire de mettre des bornes autour de cet immense sujet, sinon par la dérive. Ce rapport à l'histoire qui est extrêmement important, et on sait la controverse qui a existé entre, qui a eu lieu entre le voyant de Lublin et le Yehudi Akadosh, le roman de Martin Buber, Gog et Magog, est révélateur, même si c'est du roman, de l'idée que ces hommes se faisaient de la finalité de l'histoire, quant au rôle de Napoléon, par exemple. Alors voilà, je quitte un moment ce jargon philosophique, plus ou moins philosophique, pour revenir à la Bible. Et nous y reviendrons à ces penseurs chassidiques et kabbalistes, mais nous reviendrons également à la pensée juive contemporaine. Bon, voilà ce qui se passe. Dans la parashat de Shalar, c'est-à-dire tout de suite après la sortie d'Égypte et le miracle de la mer Rouge, Moïse se trouve avec Israël au bord de la mer. Il est dit, je ne suis pas très fort sur la numérotation des chapitres, parce que nous pensons en termes de parashiot, ça peut être le chapitre 15, un chapitre près, donc tout de suite après l'hymne à la gloire de Dieu, de la mer Rouge, Shirat Yam Souf, Moshe, Aaron et Myriam, il y a cet étrange verset sur lequel travaille Nachmanide, le Ramban notamment. Vayasa Moshe, et je m'arrête là, Moïse a fait décamper Israël des bords de la mer Rouge. Rashi est d'ailleurs assez parlant, assez explicite. Pourquoi a-t-il fait décamper Israël des bords de la mer Rouge? Il avait très peur qu'Israël s'attarde. Alors vous allez me dire, bien sûr, il ne voulait sans doute pas qu'Israël s'approprie trop de richesses, ça ne fait pas bien, encore qu'il n'est jamais inutile d'arriver en Israël avec un peu de bien aujourd'hui, et donc pourquoi pas pour eux également. Mais en fait, disons qu'on voit mal Israël dans un rôle de voleur de grand chemin, ou en tous les cas, héritant des biens des Égyptiens anéantis dans la mer. Ils ont eu le droit d'en prendre. C'était mérité, ils avaient travaillé, ils n'avaient pas reçu de salaire. Ils en ont pris un peu. Mais, attention, Moïse n'a pas voulu qu'il s'attarde. Parce qu'il craignait, en fait. Et là, je rejoins le commentaire de Rabbi Yosef Rosin, le grand de Rogatchev, dans le Sefnat Manaya, il craignait qu'Israël considère son histoire comme achevée. On a souffert, c'est ce que Dieu avait dit au patriarche, la promesse. Vous serez esclaves en Égypte et vous hériterez d'une terre. Mais ça, c'est le stade patriarcal, le niveau patriarcal de la parole au niveau des patriarches. Vous hériterez d'une terre, c'est-à-dire qu'après l'épreuve, la récompense. Vous avez souffert, maintenant vous êtes récompensé. Vous héritez de la terre. Oui, mais qu'est-ce qui cautionne cet héritage? C'est l'observance de la loi. Et le mérite qui s'attache à l'observance de la loi. Autrement dit, l'introduction de la loi commence ici. Quand je dis elle commence ici, parce qu'en fait, Moïse a très peur qu'en fait, Israël s'attarde, parce qu'il considère en fait son premier temps de l'histoire comme achevé, il prend son temps, et ensuite il va partir à toute vitesse vers la terre, avec les biens des Égyptiens. Et que se passe-t-il tout de suite après? Bien, il y a des lois qui sont données. Et quelque chose de très curieux, c'est l'histoire des eaux amères. Quelque chose de très curieux se passe. Il est Israël, Dieu donne à Israël un choc, un décret. De quel décret s'agit-il? Nous ne le savons pas. Un décret. Une loi sans cause. Pourquoi une loi sans cause? Après cette tentation, celle que je viens de dénoncer avec Moïse, de penser que l'histoire est terminée et qu'on va hériter tout de suite. Il lui donne un roc, un décret, afin de l'obliger à observer la loi, non pas pour son propre plaisir, mais pour le principe. On va voir ce que signifie le mot pour le principe tout à l'heure. Mais il est un fait que Israël était tenté, en quelque sorte, de prendre un raccourci, de penser que son histoire était sur le point de s'achever, et précisément, c'est chaque fois, nous dit Rabbi Yosef Rosin, chaque fois qu'Israël sera tenté de prendre des raccourcis dans l'histoire, chaque fois, j'allais presque dire chaque fois qu'un peuple est tenté, et je pense à Korach, chaque fois qu'Israël est tenté de se dire, pense qu'il a trouvé un moyen pour accélérer l'histoire, nous allons faire telle chose, et l'histoire sera terminée. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un substitut à la démarche éthique, une clé d'interprétation de l'histoire, Dieu impose un roc. Les oblige à s'arrêter parce que peut-être, là on est au début, on est avant le don de la loi sur le Sinaï, mais par la suite, il faudra savoir que la loi est détournée de sa fonction première. Il y a des gens qui pensent que la loi aide à accélérer l'histoire et qui, au nom de la loi, font des choses qui, excusez-moi les frissons, ne sont pas très cachères. C'est-à-dire qui en fait pensent qu'il y a un lien très étroit entre observance des mitzvot et finalité de l'histoire. Et qui à partir de là lisent l'histoire, interprètent l'histoire en fonction de l'idée qu'ils se font de la pratique des mitzvot et de ceux qui l'observent. Et ça donne des lectures interprétatives de l'histoire qui sont extrêmement curieuses, voire dangereuses à certains moments. Korach n'a pas fait autre chose. Korach, il a vu le peuple découragé après l'histoire des explorateurs. Il s'est dit, ils ne vont jamais rentrer. Korach, c'est un type très fort. Votez pour moi, au lieu de rester avec ce Moïse et ce Aaron qui sont incapables, et surtout Aaron, et puis vous verrez. Moi, je vais aller avec vous, et puis on va casser le Cananéen, on va le foutre dehors, et puis ça marchera bien. Et il y a des gens qui sont tentés. J'allais dire, il y a des gens qui sont tentés par ces démarches. Ce qui ne signifie pas que Korach est à tous les coups un mauvais personnage, qu'il n'a que des aspects mauvais, mais cela signifie qu'il est tenté de prendre des raccourcis, c'est-à-dire d'accélérer l'histoire en laissant de côté certaines dimensions de l'être, certaines exigences de l'être qui n'ont plus cours dans cette manière de penser l'histoire et qui sont abandonnées. Que se passe-t-il après ? Après le fléau ? Après les plaies ? Après l'ouverture de la terre ? Un roc. Un décret. Un décret, c'est la vache rousse, para aduma. A priori, je n'ai aucune raison d'interpréter un roc, c'est interdit. Et je ne le connais pas. Un roc, c'est une loi sans cause. C'est-à-dire une loi qui ne sert à rien. Quand je dis qui ne sert à rien, qui ne fait pas avancer l'histoire plus vite. Elle est là pour, comme ça, peut-être simplement, comme on va 3 jours dans le désert, lorsqu'on est en Égypte, c'est ce que Moïse demandait au Pharaon. On demande 3 jours pour sacrifier. On demande d'avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se recycler, pour réfléchir, pour s'arrêter dans l'histoire, pour être soi-même avant d'être sujet de l'histoire, se retrouver. Un roc. Et puis, c'est assez intéressant, ce roc est donc comme un arrêt dans l'histoire, ce que les philosophes appelleraient aujourd'hui, et les heideggeriens en particulier, une césure dans l'histoire. Un arrêt, une coupure, une césure. Un arrêt de l'histoire. L'histoire s'arrête sur des chokim, sur des décrets. On fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Simplement pour permettre ce recyclage, ce ressourcement, afin d'être un peu plus prudent et un peu plus fragile, un peu plus précaire dans son rapport à l'histoire, en tant que sujet de l'histoire. C'est intéressant parce qu'en fait, symboliquement, il est facile de considérer, nombre de commentaires le font, notamment dans la Chassidoute, de considérer que la vache rousse, la vache, c'est la mère du veau, et le roux, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au veau d'or, à l'or du veau, quant aux couleurs, et puis les cendres, et puis la terre, ça renvoie au dur, au politique, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, et là je fais un très bref retour en arrière, c'est que le veau d'or, c'était quoi ? C'était le substitut à une relation qui n'existait plus. C'est-à-dire qu'Israël, en l'absence de Moïse, ne supportait pas cette absence. Et ils ont substitué à cette absence un veau, afin de mieux croire en la parole de Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont présenté à nouveau, ils ont idéalisé, c'est-à-dire qu'ils ont représenté, ils ont figé la présence de Moïse dans l'histoire. Ils en ont fait une espèce de Socrate. Et on connaît les conséquences. Ce n'est pas qu'ils voulaient adorer l'idolâtrie. Vous imaginez, en pleine révélation du Sinaï, en pleine théophanie, ils ne trouvent rien mieux de faire, ce peuple, que d'adorer les divinités cananéennes ou égyptiennes. Ce n'est pas ça du tout. Ils adoraient la parole de Dieu, mais ils l'adoraient, au sens de la représentation. Ils ne faisaient pas leur choix dans la vie. Alors, chaque fois qu'il y a cette tentation de la représentation, comme l'est le veau d'or, alors on nous dit que, par exemple, après l'histoire de Korach, qui a voulu un peu accélérer l'histoire, donner une finalité immédiate à l'histoire, afin de précipiter les événements, et on sait que les gens qui veulent donner un sens à l'histoire, c'est souvent pour en précipiter les événements, afin de lui accorder cette finalité, et de la perpétuer, eh bien, il est demandé de construire une vache rousse, de choisir une vache rousse, et de sacrifier la vache rousse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapport qui consiste à revenir à l'antériorité du veau d'or, à ce qui est avant le veau d'or, la vache, la mère du veau, l'or, le roux, par rapport à l'or. Ce qui est antérieur, c'est-à-dire comme s'il fallait contourner l'idolâtrie du veau d'or, c'est la tentation du veau d'or, pour redevenir soi-même, être entier, sujet, responsable de l'histoire. Autrement dit, la vache rousse, le rite de la vache rousse, aurait pour vocation de prévenir ces tentations, de s'obliger par ce rite à penser l'anti-représentation. Retrouver de la dynamique dans la vie, un choix dans la vie afin de vivre, et non pas de perpétuer une représentation, une idolâtrie. Bon. Ceci étant, je voudrais vous faire remarquer que, encore une fois, nous avons retrouvé, avec la vache rousse, ce problème de la représentation, par le biais du veau d'or. C'est-à-dire que le roc, la loi sans cause, ce décret, ce que j'appelais cette césure dans l'histoire, est un arrêt, un ressourcement, afin de se préserver de l'idée de représentation, de la tentation de la représentation du figé, de l'image. Et ceci est une tentation politique, parce qu'on sait qu'il y a des peuples qui vivent précisément sur le support de l'image, ce que l'on appelle des mythes, un art. Et là, je renvoie autant à la pensée grecque qu'à la pensée allemande, à la philosophie allemande. C'est-à-dire sur un art, une certaine image que l'on se fait du concept. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement gênant. C'est qu'en fait, lorsque je pense à Nietzsche d'abord, je pense à Heidegger après Nietzsche, Heidegger a formidablement bien expliqué le principe de la césure. J'allais presque dire, malheureusement, sauf sur le présent, sur son présent, c'est-à-dire Auschwitz. Il l'a formidablement bien mis en valeur dans l'histoire de la philosophie, mais il est toujours plus facile d'être philosophe de l'histoire que de sa propre histoire. Lorsqu'on a du recul, on peut penser. Mais lorsqu'on n'en a pas, je ne sais pas. Je ne m'engage pas dans les polémiques actuelles, elles ont bien peu d'intérêt pour nous ce soir. Mais il est un fait que cette idée de la césure, et là on est en opposition totale avec la philosophie de Hegel, qui est une philosophie de la finalité de l'histoire, c'est ce principe de césure dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aurait des moments qui sont comme des interruptions de l'histoire et qui ouvrent une autre possibilité de l'histoire, ou bien, dans les pires des cas, dans les cas les plus tragiques, peuvent fermer toute autre possibilité de l'histoire découlant de la première. Et là, je pense à Auschwitz. En reprenant cette phrase de Maurice Blanchot, c'est-à-dire ce moment de l'histoire qui interrompt l'histoire et qui ferme toute possibilité d'histoire. On ne peut plus penser après Auschwitz comment penser avant. Je voudrais ajouter une autre chose. C'est que il y a dans cette idée de césure, ce qu'on appelle chez les Grecs les regnits, c'est-à-dire un retrait. Un retrait de l'histoire qui évoque étrangement chez Heidegger ce que nous appelons le roc. Je ne joue pas sur des comparaisons faciles. Ce que Heidegger a apporté de fondamental à la philosophie, et en tant que plus grand penseur du XXe siècle, il est certain que c'est par rapport à cette notion de césure, par rapport à cette notion de distanciation, de retrait de l'histoire, qu'il a mis fin à l'hégémonie hegélienne. Et la pensée de Lévinas ne lui est pas peu redevable à Heidegger. Maintenant, il faut ajouter que, en fait, je ne cherche pas à comprendre pourquoi Heidegger n'a pas, ce n'est pas le sujet de ce soir, n'a pas perçu en Auschwitz cela, et la nature de son engagement, mais pour reprendre le terme de Blanchot, Auschwitz, cet événement sans réponse, qui ouvre ou qui ferme une toute autre histoire que celle connue jusqu'ici. Et j'ai toujours présent, lorsque je lis ce texte de Blanchot, j'ai toujours présent le principe du roc dans l'histoire de Corar, comme dans le don du roc, ce décret, cette loi sans cause, après la sortie d'Égypte, lorsqu'Israël se croyait arrivé, chaque fois qu'on croit que l'on est arrivé. Il ouvre ou il ferme une toute autre histoire que celle connue jusqu'ici. Sauf qu'ici, et c'est peut-être la différence entre Auschwitz, évidemment, et le roc, sauf qu'ici, ceux qui subissent l'exclusion à Auschwitz, c'est-à-dire les Juifs, ne sont pas ceux qui ont voulu l'immédiateté ou commis la faute, mais ce sont les autres. Je dirais que c'est la seule différence avec le roc. Et il est bien entendu également que, de ce point de vue-là, et là, puisqu'il faut donner des références, j'ai été extrêmement frappé en relisant pas plus tard qu'il y a Shabbat dernier, dans la perspective de ce soir, un des tout derniers textes écrits par Rabbi Shlomo Eliashov, lorsqu'il vivait en Palestine de l'époque. À Jérusalem, il avait quitté la Russie en, je crois, en 22 ou en 24. Il est mort en 26, à Jérusalem. Et il écrit des textes qui sont en marge du Lechem Shiur Lama, des textes qui sont d'ailleurs étrangement très proches de ceux que j'ai retrouvés dans une lettre écrite et que je n'ai qu'en photocopie, qui n'est pas éditée encore, par Rabbi Yosef Rosin à un de ses élèves. Par Rabbi Yosef Rosin à un de ses élèves, qui lui, Rabbi Yosef Rosin, est mort en 36 à Vienne, où il était venu se faire soigner. De Dvinsk, Russie, à Vienne, pour se faire soigner. Et il est mort à Vienne. Cette lettre a été écrite au tout début de l'année 1936. Et l'un comme l'autre, mais c'est plus remarquable peut-être chez Rabbi Shlomo Eliashov, qui écrit en Palestine en 1925, que chez Rabbi Yosef Rosin, qui écrit à Vienne en 1936, l'un comme l'autre font des considérations sur, j'allais dire, le principe de l'image, le principe de la temouna. Et ils disent, et c'est particulièrement marqué chez Rabbi Yosef Rosin, que n'oublions pas que Rabbi Yosef Rosin était un homme qui avait connaissance de la philosophie, qui avait étudié la philosophie, que, en fait, il y a ce symptôme, je traduis le texte de Rabbi Yosef Rosin dans un langage d'aujourd'hui, de ce qui pourrait être précisément le déchet de l'idée de Temouna. Et lorsque je pense à cette seule phrase, Rabbi Yosef Rosin ne parle pas pour ne rien dire, il a écrit ça, pour lui c'est fini, à Maskil Yavin, celui qui veut comprendre, il comprendra. Lorsque je repense à ce texte que j'ai lu il y a quelques jours de Philippe Lacoulabart, qui écrit un petit livre, ce livre-là, La fiction du politique, sur ce qui s'est passé à Auschwitz, la polémique autour de Heidegger et le dépassement de la pensée nietzschéenne. Voilà ce qu'il écrit. Auschwitz est très précisément le déchet de l'idée occidentale de l'art, la techné. Et lui emploie, reprenant le vocabulaire de Blanchot, ce national, non pas socialisme, mais esthétisme. Un peuple qui fonde sa mission sur l'image, c'est-à-dire sur un mythe, sur une représentation, un art, une techné, un art qui donne sa raison d'être, le mitharien, à sa présence dans l'histoire. Donc Auschwitz est très précisément le déchet de l'idée occidentale de l'art, la techné, ce national-esthétisme, symptôme dissimulé du moderne avorté. C'est-à-dire, et là c'est l'explication de Philippe Lacoulabart sur le texte de Blanchot, c'est-à-dire cette idée qu'un peuple ne naît à l'histoire et ne s'identifie comme tel que s'il est porteur d'un mythe, ça c'est le problème du nazisme de l'Allemagne. Et c'est précisément un mythe qui lui soit propre, et vous savez combien les idéologues comme Rosenberg du nazisme, méprisant les juifs, les pensaient incapables d'adhérer à quelque mythe que ce soit. Ce sont des simulateurs. Ils ne font que la mimésis, que s'identifier aux mythes existants. Ils sont incapables de créer un mythe fondateur. Et je suis très tenté de lire dans ces phrases de Lacoulabart, il l'affirme d'ailleurs, mais je n'ai pas noté ces phrases, que dans ce national-esthétisme, il y a quelque part le pendant de ce qui a commencé avec Platon. C'est-à-dire la présence de la mort parce qu'on a voulu, mais dans sa forme la plus dégénérée, extraordinairement dégénérée, incarner cette pulsion de mort dans la présence d'un mythe comme fondateur d'un peuple dans l'histoire. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, dans la mesure où, et je voudrais conclure sur ce point-là, et terminer mon propos ce soir, où, avec Auschwitz, il y a eu une césure. Une césure dans la pensée. Auschwitz est quelque chose qui est irreprésentable. L'indicible, comme disent certains. Irreprésentable. En Telme ou Blanchot. Quand je dis irreprésentable, c'est-à-dire qu'il y a eu une césure, il y a un retrait. Et de ce retrait doit naître la possibilité de repenser sa présence en tant que sujet dans l'histoire. Et la sympathie, voire la connivence, qu'un peuple comme le peuple juif peut avoir avec un mode de culture, un mode de pensée, dépend de cette capacité chez les peuples, qui sont souvent porteurs d'un mythe, quel qu'il soit, et je dirais quel que soit son degré de dégénérescence, ou au contraire, autofondateur et fondateur de valeurs, générateur de valeurs, Sa capacité à se retirer de l'histoire, à faire retrait, c'est-à-dire à inscrire cette césure dans la continuité de sa présence à l'histoire, c'est peut-être dans cette césure que naît pour Israël l'idée d'une valeur qui peut se perpétuer. C'est-à-dire, pour un peuple, cette capacité à faire à sa manière les roukim, c'est-à-dire à se démythifier, à se ressourcer, à se retirer dans l'histoire afin, précisément, de marquer la discontinuité dans le principe de finalité historique entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Être à même de recommencer sur d'autres bases, de recommencer à penser sans tirer constamment les conséquences de ce qui a été en vue de la finalité de l'histoire qui serait préconnue. Voilà. Voilà, et c'est peut-être dans ce sens, c'est-à-dire dans cette capacité pour nous, juifs, à vivre avec le roc, le décret, pour être dans l'histoire de manière juste, et pour les peuples, à inscrire cette césure dans l'histoire, lorsque quelque chose tend à la représentation, et une représentation comme à Auschwitz tellement exacerbée qu'elle en est devenue irreprésentable, qu'il nous faut être vigilants, savoir retrouver ce que Lévinas enseigne excellemment lorsqu'il dit « Voilà, après Auschwitz, je n'observe plus la loi pour l'histoire, mais la loi pour la loi. L'éthique prime sur le politique de manière définitive. Je fais la loi, pourquoi ? Et je dirais qu'à la limite, ce sont des enseignements que l'on retrouve chez des penseurs avant lui, comme chez Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Je fais la loi pour l'acte éthique dont la loi est porteuse. Et je voudrais, en guise de dernière phrase, simplement rappeler une définition que l'on trouve chez Rabbi Yosef Rosin, le Gaon de Rogatchov. Le sens d'une loi n'est pas décelable théoriquement dans sa raison. J'allais dire, la raison peut être très bien considérée comme un mythe, l'idée que je me fais de l'opportunité de la loi en le moment que je vis. Ça, c'est la raison, mais c'est souvent une techné, ce qui donne la technique, c'est-à-dire une image qui m'aide à résoudre certains problèmes, un art ou un artifice qui m'aide à résoudre un problème de l'histoire. Le sens d'une loi n'est pas décelable théoriquement dans sa raison et préalablement à sa mise en œuvre. Son sens, et là je me réfère à un cours que j'avais fait ici dans le séminaire de Manitou sur la vérité, son sens, c'est l'effet que son application engendre et qui, donc, ne peut être imaginable que vécu dans sa pratique. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'image et de représentation, mais ça a à voir avec les effets possibles. Et pour mesurer les effets, encore faut-il savoir sortir de l'histoire pour capter les implications d'un acte et ne pas vivre uniquement sur le principe de finalité. C'est dans ce sens qu'il peut y avoir dans les actes des nations quelque chose d'universel dont Israël se rapproche pour le bien des nations et pour son bien également.
Je remercie le rabbin Gilles Bernheim pour cet exposé que je pense vous avez tous apprécié et qui est tout à fait exceptionnel à la fois par son caractère très brillant et très dense. Alors, avant que Manitou n'intervienne, je voudrais donner la parole à la salle pour un débat. Et si vous voulez, pour lancer le débat, je ferai en ce qui me concerne deux remarques. La première, c'est simplement pour expliciter ce que je disais au départ sur les réserves que personnellement je faisais sur le caractère réellement universaliste de la pensée kabbalistique et chassidique, mais le chassidisme procède dans son aspect philosophique fondamentalement de la pensée kabbalistique. En donnant simplement un exemple, vous savez qu'il y a une théorie très célèbre chez les mystiques et les kabbalistes en particulier, c'est ce qu'on appelle la théorie des clipotes. c'est-à-dire la recherche des étincelles de sainteté qui se trouvent éclatées dans le monde. Alors ça fait tout de même un peu penser à cette phrase de Schopenhauer, disant que certaines doctrines sont comme des poteaux indicateurs qui indiquent la route sans la suivre. Parce que tout cela est bel et bien exprimé, mais on connaît très peu de kabbalistes qui aient véritablement fait l'effort de rechercher à l'extérieur ces fameuses étincelles de sainteté qui se trouvent réparties dans l'humanité. Ceci est une première remarque. En ce qui concerne alors la deuxième remarque, c'est sur le problème, cette accélération ou ce raccourci de l'histoire. Le rabbin Gilles Bernheim aurait pu certainement citer ce que nous sommes nombreux à avoir en tête, c'est la fameuse explication mystique sur le texte du Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour tant qu'il ne s'éveille pas lui-même, tant qu'il est endormi. Et dans la mystique juive, ceci est appliqué justement à la non-accélération de l'histoire, et même certains ont eu l'audace de l'approprier au sionisme, c'est-à-dire que ça fait partie de la propagande anti-sioniste dans certains milieux mystiques ou kabbalistes. À savoir que là encore, c'est respecter la temporisation de l'histoire, essayer de ne rien accélérer. Mais on pourrait dire aussi bien que dans un autre texte biblique d'Ésaïe, on dit « Beito Arishena, dans son temps je l'accélérerai ». Donc il y a des temps où au contraire il faut accélérer l'histoire. Et d'ailleurs accélérer après 2000 ans, ce n'était déjà plus vraiment une accélération. Voilà, si vous voulez, quelques-unes des remarques que je faisais un peu en iconoclaste pour lancer le débat. Alors maintenant, vous avez la parole. Mais je vous en prie, il faut bien que...
Que j'exprime cette forme d'angoisse dans laquelle je vis. Parce que quand on vient aujourd'hui, quelque part, au point de vue du judaïsme, on a toujours, je ne parle pas aujourd'hui par rapport aux événements, je parle aujourd'hui depuis quelques années, on s'interroge toujours sur le rapport avec le présent. On ne peut pas étudier aujourd'hui dans l'abstrait. Alors par rapport au présent, il y a un ensemble de questions que j'aurais souhaité pouvoir aborder, et je n'ai pas du tout entendu. C'est ça qui m'angoisse. Et je commence par la fin, par cette référence au problème des Minassiens, aujourd'hui la politique passe avant l'éthique, car nous savons parfaitement bien que nous... Et c'est qu'exactement, peut-être, nous sommes dans un moment de notre histoire où c'est le conseil à éviter à tout prix pour notre moment aujourd'hui. Il s'agit ni d'accélérer, ni de ralentir. Il s'agit de se dire, est-ce que certains principes abstraits peuvent venir au moment même où nous sommes dans notre histoire, dans un moment où on est obligé peut-être de passer, et comme disait le Rav Kook, on est obligé de passer par là où il ne faut pas passer, par cette analysisation de la vie, par exemple, par rapport au judaïsme, pour trouver la bonne voie après. Alors ça, déjà, vers la fin, je suis angoissé par cet aspect-là. Je suis angoissé par le grand problème. Je connais très bien les rapports de l'universel avec moi en particulier. Je sais ce que les autres ont toujours pensé de moi. Car moi, j'étais assez neutre dans l'histoire. Franchement, il faut dire qu'à part la disputation du Moyen-Âge, certains juifs osaient dire quelques mots de temps en temps. Je n'ai pas beaucoup parlé aux autres. Je n'ai pas beaucoup dit aux autres ce que j'ai à leur dire. Et je suis sûr que j'ai à dire des choses aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, 45 ans après Auschwitz, 40 ans après Israël, je m'interroge sur la chose fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore quelque chose à dire aux autres? Est-ce que j'ai un message, moi, particulier, dans mon universalité, à aller dire aux autres, sans politesse, sans respect, sans dire, je ne rentre pas dans la théologie, je ne rentre pas dans la discussion théologique. Si je rentre dans toutes les discussions théologiques et dans toutes les discussions philosophiques, je vais savoir où j'en suis aujourd'hui par rapport à une sorte de forme de résurrection que je fais en moi-même, pour dire, est-ce qu'il est temps d'aller dire. Alors d'abord, peut-être pas le moment de prêcher l'éthique contre la politique, de cette façon aussi abstraite, est fort. Et deuxièmement, quelle est ma position, moi, par rapport à mon discours, par rapport à ma nation? Et j'irai plus loin déjà, puisqu'on va parler de ces problèmes du Christ, puisqu'on va parler du Christ, pourquoi ne pas toucher à ce problème-là aussi, qui est délicat, c'est qu'en fin de compte, dans le Christ, il y a une certaine vision de l'accomplissement de la loi, il ne faut pas oublier ce thème-là, de l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire on n'interprète plus la loi, étant donné que l'image est déjà formée, lui est mort, donc je peux me permettre de dire, le Messie est arrivé, la loi est accomplie, je n'ai plus besoin d'interpréter. Quand je sais que nous avons choisi, juste à ce moment-là, c'est l'éclosion de l'introduction de la loi, on oublie souvent que le christianisme est né, en même temps qu'est née vraiment la loi orale, la Mishnah, la Gemara, c'est pas après le christianisme comme on peut le croire, c'est pendant que le christianisme naît que nous développons l'interprétation. Est-ce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas se poser cette très grave question, où en sommes-nous par rapport à l'interprétation, à la non-figée de la loi? Où en sommes-nous par rapport à nous-mêmes dans cette situation de ne pas nous trouver dans cette situation de loi qui est telle qu'elle est et qu'en fin de compte, on ne va pas toucher, comme Rosenzweig l'a dit, pas aller à l'Israël parce que c'est dangereux, pas parler l'hébreu parce que c'est dangereux, ils vont mieux rester en dehors d'Israël, ils vont mieux rester en dehors de l'hébreu pour me préserver de toute tentation. Et en fin de compte, à force de faire cela, je suis comme un moteur qui est à la position neutre, je ne mets pas en vitesse, c'est très joli, ça roule, ça fait un beau bruit, mais rien n'accroche, rien ne va. C'est pas que je dis qu'il faut aller quelque part, je ne dis pas qu'il faut aller, qu'il y a une finalité à l'histoire. Je dis que de toute façon, si je me suis mis dans cette position de peuple juif à part, peuple prêtre, peuple exemple, ça doit servir à quelque chose peut-être. Alors, qu'il y a eu 2000 ans pendant lesquels on a eu peur, ça sert, je veux bien, mais qu'aujourd'hui, quand on s'interroge sur le particulier et l'universel, ça me semble impensable qu'on n'aborde pas ces problèmes-là de face.
Une autre question?
Peut-être...
Madame, pardon.
Moi, j'ai trois questions avant pour résumer de manière un petit peu simple, pour qu'on pourrait nous réexpliciter. Là, il me semble que toute notion de création implique en elle-même un désir d'accaparer à l'instant vie, quelque chose d'affectif qu'on a vécu et qu'on veut peut-être transcender. En tout cas, c'est ce qu'on a appris en psychologie. Il me semble que dans le judaïsme aussi, il y a cette notion de nostalgie, peut-être liée au passé et à la mort, et la pulsion de mort, en réalité, la nostalgie du temple, la nostalgie de Jérusalem. Donc pourquoi une nostalgie est bonne et une autre n'est pas bonne? Et non. Enfin, il me semble.
Je m'excuse, parce que les questions, vous en posez trois. J'ai déjà eu un premier intervenant, je ne suis pas à même de mémoriser autant de questions.
Alors,
je ne dis pas que je vous interdis d'en poser d'autres, mais je voudrais commencer par répondre.
Parfait, alors si vous voulez répondre à cette première série de questions.
Alors, je commence par la dernière. Lorsque, dans le... On va lire le texte, et c'est très simple, dans le deuxième commandement, deuxième dibour, la deuxième parole, il est dit... que tu ne dois pas faire pour toi d'idoles et d'images. Et alors, on décrit ce que peuvent être ces images et ces idoles. Dans le verset suivant, appartenant, donc s'inscrivant toujours dans l'esprit du deuxième dibour, tu ne dois pas te prosterner et tu ne dois pas les servir devant ces images. Ça veut dire qu'il y a des maîtres de la pensée juive qui posent la question, est-ce qu'on a le droit de les construire si on ne se prosterne pas devant? Est-ce que c'est pensable? C'est un petit peu dans l'esprit de votre question.
Je voudrais ajouter une chose. C'est que ce dit verset,
tu ne dois pas te prosterner, tu ne dois pas les servir, qui appartient, j'insiste là-dessus, toujours au deuxième dibour. Sur quoi débouche-t-il? Sur une notion de ce que l'on appelait autrefois de Dieu jaloux, qui se vend sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte, d'ailleurs. Ce que dit le texte, c'est qu'il y a Dieu, poked avon avot. Ça fait partie du deuxième dibour, du deuxième commandement, donc de l'interdit de la représentation, bon. Qui compte la faute des pères jusqu'à la troisième ou la quatrième leçon d'arrêt quant à ceux qui me détestent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu faute, insuffisance à la première génération, pour savoir si elle peut être réparée, si elle est réparée, il faut qu'il attende la quatrième, la troisième ou la quatrième. C'est pas que Dieu se venge, qu'ils sont dans un Dieu vengeur. C'est qu'il faut savoir attendre trois ou quatre générations pour vérifier si... Et alors si on voit que sur trois ou quatre générations, l'insuffisance, le manque premier, a été dépassé, tu peux savoir, et c'est le verset suivant, qu'à ce moment-là, tu sais transmettre, même sur mille générations, et qu'il y a de la bénédiction qui coule, entre guillemets, dans l'histoire jusqu'à la millième. Je m'arrête là-dessus un instant. Parce qu'en fait, si l'interdit de la représentation est associé dans le verset à l'idée qu'il faut attendre 3 ou 4 générations pour savoir si un manque, une insuffisance a été dépassée, a été corrigée, cela veut dire simplement que dans l'esprit de votre question, il n'est certainement pas possible d'interdire toute représentation. Je dirais qu'il n'y aurait plus de vie du tout. De la même façon qu'au niveau du désir, pour employer un langage psychologique, vous avez fait référence, s'il n'y a plus de pulsion, il n'y a plus de désir. Si j'ai plus d'envie du corps, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas simplement un rapport de sujet à sujet, intellectuellement parlant, etc. Non. Ce qui est par contre entendu dans ce verset, c'est que la part de représentation, elle se mesure dans ma capacité ou non, jusqu'à la 3e ou 4e génération, à véhiculer ce qu'il y a d'idolatrique, ce qu'il y a de représentation, ce qu'il y a de figé. Je peux très bien avoir quelque chose de figé, mais ce qui est important, c'est la manière dont je transmets ensuite ce désir de la représentation. Et comment mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants vont réagir. Ça, c'est le problème de la bénédiction. Et ça, c'est le problème « Natati lefanecha abracha ve'aklala ». J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. On retrouve cette association entre les deux textes, si vous voulez. Alors, je voulais simplement, en répondant ainsi, mettre un peu de mesure à mon propos. C'est-à-dire qu'il y ait des repères que... Il est évident qu'à partir du moment où on dénonce un interdit, et c'est, je dirais, personne ne peut échapper à ce travers lorsqu'il pense en public, on est obligé de caricaturer, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler à fond sur un concept pour voir où se situe l'interdit, en sachant très bien qu'il faut vivre avec cet interdit, s'essayer à le réduire autant que possible, donc à créer de la vie, à choisir dans la vie afin de vivre et de faire vivre sa descendance. Le Ra Ulzarecha, disait le verset de Vayeler, chapitre 30 de Deutéronome. Mais il faut aussi que ta descendance puisse vivre. Par contre, si tu veux à tout prix éliminer toute forme de représentation en toi, en ton choix de vie, tu risques de ne pas avoir de descendance du tout. Tu risques de ne pas avoir de descendance du tout. Une seconde. Je voudrais répondre à la question précédente. Une somme d'affirmations questionnantes. Et je serais tenté de reprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que lorsque je me trouve devant un tel sujet, je fais extrêmement attention au choix des mots de l'intitulé. Et peut-être que j'y fais plus attention que celui qui l'a proposé. Je veux dire par là qu'on n'a pas nécessairement réfléchi sur le détail des mots, mais moi, il faut que je me raccroche quelque chose de précis devant un tel sujet, sinon je peux faire 10 exposés différents. Ce qui est dit dans le sujet, thème général de ce séminaire, Israël et l'universel humain. Il n'est pas dit l'universalisme d'Israël. Il est parlé des rapports d'Israël et de l'universel des autres peuples, l'universel humain, de tous les peuples. Et il m'est demandé plus particulièrement l'universalisme, c'est-à-dire quel est, dans le cadre du séminaire, c'est-à-dire comment est pensé ce rapport d'Israël à l'universel humain dans la pensée chassidique, kabbaliste et pensée moderne. Alors, j'ai traité un aspect du sujet, étant entendu que vos reproches sont particulièrement bien fondés, dans la mesure où je sais très bien que, pour prendre, j'allais dire, un paradigme, un exemple liturgique et rituel, Pessah n'est pas une fin en soi. Enlever le Hametz n'est pas une fin en soi. Il ne m'est pas demandé d'enlever le Hametz toute l'année. C'est un rite que je fais régulièrement. En quelque sorte, je me place dans le début d'une sortie de l'histoire d'Égypte pour faire histoire, pour être sujet de l'histoire. Mais il n'est pas demandé d'être ascétique. D'enlever tout ramet, tout ce qui gonfle, tout ce qui fait versant, tout ce qui gonfle les rythmes, tout ce qui, je dirais, gonfle au détriment de la cohésion interne. On est bien d'accord là-dessus. Et parce que si on ne l'est pas, cela peut vouloir dire qu'à chercher son ramet tout le temps, et d'autres diraient dans un langage un peu plus ampoulé et plus pieux, à vouloir chercher ce qui gonfle en moi, certains appellent ça le yetzerara, je risque de passer toute ma vie à le chercher et d'être sujet hors l'histoire. Et c'est extrêmement difficile d'être hébreu, ivri. C'est-à-dire, il est extrêmement difficile d'être sujet qui se purifie, mais qui est présent dans l'histoire, dans la nuit de l'Égypte, hors l'Arba Asar, dans la nuit point, c'est pour ça que nuit et lumière se disent de la même façon dans l'hébreu de Mishnah, dans la nuit de l'Égypte point une lumière. Il faut que j'enlève le Hametz de l'Égypte et en même temps, il faut que je sois déjà accessible, réceptif, voyant cette lumière qui pointe en avant, c'est-à-dire d'être présent dans la clarté des nations, dans la lumière de l'histoire. Il y a une très grande précarité, je veux dire encore une fois, on peut dénoncer ce qui s'est passé pendant 2000 ans, certainement, encore faut-il le faire avec une juste mesure pour éviter de faire le contraire de ce que l'on n'a pas fait. Et j'y suis particulièrement sensible. Je sais très bien, et là je reprends un enseignement de Reb Tzadok HaKohen, de Lublin, que dans le verset que je citais tout à l'heure, Poked avon avot albanim al kirishim al ribeim le son aï, dans ce verset, vous savez, la première génération faute un manque, une insuffisance, un trouble, un travers, je sais. La deuxième génération, c'est comme dans les...